Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Frédéric Bonnet se font face à notre affiche Fantin Latour à fleur de peau. C'est au musée du Luxembourg jusqu'au 12 février. Puis lui, Louis Forain à la fondation Henri Cartier-Bresson jusqu'au 18 décembre. On évoquera aussi plus rapidement Kerry James Marshall à Chicago et Yvan Salomon à la galerie Xipas à Paris. Au cours de cette émission, bien sûr, nous irons faire un tour dans le petit salon de Lucille Comeau vers 21h20. Et puis bien sûr également des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir pour accompagner Corinne Rondeau des places de cinéma pour aller voir le film Showgirls de Paul Verhoeven en version restaurée qui est sorti aujourd'hui dans les salles et dont nous parlions hier soir ici même. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant au musée du Luxembourg Sénat pour y découvrir l'exposition Fantin Latour à fleur de peau, la précédente rétrospective parisienne de l'œuvre de Henri Fantin Latour, né en 1836, mort en 1904, était celle du Grand Palais. C'était en 1982, ce qui commençait effectivement sérieusement à dater. Un accrochage chronologique dont on va parler pour cette exposition Fantin Latour dans le commissariat est signé Laure Dallon, qui est conservateur à la RMN Grand Palais, Xavier Rey, conservateur au musée d'Orsay, et Guy Tossato, le directeur du musée de Grenoble, puisque l'exposition est organisée conjointement par la RMN, le Grand Palais, le musée de Grenoble, et donc avec la collaboration du musée d'Orsay. Voilà pour les choses un tout petit peu pratique. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut voir dans cette exposition. Et faut-il reconsidérer l'œuvre de Fantin Latour, connue pour un certain nombre de... une certaine période, on va dire, davantage de son œuvre que pour sa richesse, qui est présentée ici, des œuvres de jeunesse jusqu'aux dernières, bien sûr. On suit Corinne Rondeau d'abord dans ce musée du Luxembourg.
Bah oui, on commence avec des tableaux de 1843, Le Songe, qui est le premier tableau qui va permettre de boucler la fin de l'exposition par ailleurs. Mais ce qu'on voit le plus n'est pas ce songe simplement, ce sont beaucoup d'autoportraits et de liseuses. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à la fois, on connaît peu. Moi, je connaissais fort peu, finalement, Fantin Latour. Et ce qu'on découvre, c'est vraiment quelqu'un qui fait des autoportraits avec un regard décalé, toujours de biais, très inquiet, d'une certaine manière, et des portraits où la facture picturale a quand même une très forte solidité. Il y a une précision très grande, notamment dans les tonalités de gris et les ombres qui sont assez admirables. Et on voit très tôt, en fait, dans ces tableaux de liseuses, ces femmes qui lisent seules ou à deux. Donc c'est toujours à peu près le même titre, la liseuse, mais telle année, etc. Et il y a un tableau, moi, qui m'a assez attiré l'œil. C'est une liseuse où vous avez une dame qui écoute donc une femme en train de lire, une liseuse. Et derrière, elle est, moi, je l'appelle la femme au gant. Parce qu'en fait, cette femme qui écoute la lecture a un gant noir à la main et l'autre, elle est dénudée. Et on a en arrière-plan très léger, il y a la liseuse qui est en fait dans un arrière-plan lui-même de sombre, comme si elle disparaissait dans la lecture. Et derrière le plan de la dame qui écoute, il y a un arrière-plan de ton clair qui comme ça donne à voir la lecture qui s'élève dans l'esprit de cette femme. Et en fait, toute la lecture et la musique qu'on retrouvera aussi comme un enjeu très fort chez Fantin Latour est une manière de dire il y a dans ces peintures liseuses et autoportraits une âme occupée et préoccupée et quelque chose d'une suspension qui est très grande au niveau de ces portraits et cette manière qu'il a d'arrêter littéralement le sujet qu'il a à peindre. Et on connaît de lui évidemment l'hommage à Delacroix. Cet hommage à Delacroix qui est très marqué par un Rembrandt, et on peut retrouver cette référence dans le catalogue, c'est parfaitement écrit et c'est identifié. Il a vu des copies Milaitas, allé aussi en Hollande voir des Rembrandts. On voit très bien que dans cet hommage à Rembrandt, entre des peintres, vous avez un bouquet de fleurs qui attend en fait la section qui va arriver de toutes ces fleurs absolument admirable, je crois n'être jamais resté aussi longtemps devant des peintures de fleurs. Et on voit bien qu'il y a une leçon à la Rembrandt, à la fois dans le travail des gris, des tonalités, et en même temps, comment constituer une scène de genre avec des personnages. En fait, on pourrait dire que chez Rembrandt, il y a un rapport à l'unité et au rapport centripète du regard. Ce qui est admirable, et ça c'est écrit aussi d'ailleurs dans l'excellent livre, le texte de Laurent Salomé du catalogue, La vie avec les fleurs, que je trouvais absolument formidable, il y a cette dimension qu'il y a des scènes où les portraits sont centrifuges. Ils sont isolés et ensemble à la fois, mais cette unité est difficile. Mais c'est aussi la manière de dire, il peint des visages comme un bouquet de fleurs. Mmh. Ou il peint des fleurs comme des visages. Et ça, c'est très beau parce que ça se voit simplement, sans avoir à nous expliquer tout ça, ça se voit quand on s'arrête face à cette peinture. Et il a une facture picturale qui, moi, m'a assez arrêté parce que il y a autant cette suspension des portraits et des autoportraits qu'il y a une matière de sa peinture. Je pense notamment à un coupe-papier. Vous pourriez prendre le manche. Mmh. Vous voyez des tulipes qui sont pas encore ouvertes, mais vous sentez le vide dans la tulipe. Il y a un travail sur les mats et les brillants, notamment. Mais ça, c'est plutôt vers la fin de l'exposition où on a un retour à des liseuses. Et là, vous avez du brillant sur les tranches de livres. Vous voyez cette dimension vraiment vivante de la peinture avec des détails, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un d'une rigueur et d'une picturale qui est assez remarquable. Et il y a notamment des capucines, un bouquet de capucines, mais ça vaut bien une cathédrale.
Frédéric Bonnet, aussi enthousiaste que Corinne Rondeau sur Fantin Latour.
C'est tellement joliment dit ce que vient de nous asséner Corinne, c'est magnifique.
Je ne vais pas parler de la fin.
On y viendra.
Non, on va y venir justement. Moi aussi j'ai découvert plein de choses parce que évidemment je n'avais pas vu la rétrospective des années 80 au Grand Palais et comme la plupart des gens, j'étais resté sur les portraits de groupe et puis je connaissais pas grand chose de plus, j'avoue. Bien humblement. Et finalement, je l'ai trouvé très ambivalent, moi, ce Fantin Latour. Alors, j'en retiens, comme Corinne, la parfaite dextérité. C'est une peinture absolument remarquable, impeccable techniquement. La manière dont il traite ses fonds, qui sont quasiment tous les mêmes. Il y a une systématisation du fond très très sec, légèrement tramé, avec des coloris neutres, de manière à se concentrer sur le sujet et à créer aussi une profondeur qui n'existe pas. Ceci en lien avec également une perfection dans le traitement de la lumière et de l'éclairage, qui est remarquable et qui fait que on a toujours tendance à aller se coller le nez sur les tableaux. Et bien là, moi d'un coup, en me reculant, je me suis dit, il faut les regarder de loin. Et parce que de loin, il se passe vraiment pas la même chose de près. Ça peut paraître idiot, mais pour le coup,
particulièrement vrai avec lui.
Oui, absolument. Il y a vraiment un autre relief, un autre rapport qui se crée avec le sujet. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans sa peinture, en tout cas dans l'essentiel de ce qui a donné à voir ici, c'est que c'est une peinture du silence. C'est une peinture intensément silencieuse. Il n'y a jamais d'anecdote, il n'y a jamais de narration. Il est focalisé sur le sujet, point. Même les assemblées de peintres ou d'écrivains, elles ne se disent rien. Elles sont là, elles existent pour elles-mêmes, et on ne va pas au-delà. Et du coup, encore une fois, ça permet à l'œil d'aller se concentrer véritablement sur le sujet et sur la manière dont le sujet est traité et représenté. Et tout ça sur une quand même très longue durée. Et donc, je trouve cette maîtrise d'un bout à l'autre assez remarquable. Après, c'est vrai que je l'ai trouvé, je disais, assez ambivalent, ce Fantin-Latour, parce que d'un côté, il est froidement ancré dans le réel, et puis à la fin, il va se faire lyrique. Je crois que le lyrisme, ça ne lui sied pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Ah, alors, hein, vous allez...
Parce que d'un coup, quand il délaisse justement le regard froid, clinique, détaché, et que il s'intéresse, enfin, c'est pas qu'il s'intéresse subitement à la musique, mais d'un coup, il polarise son œuvre en rapport à la musique. Il y a un tournant dans ça, c'est 1876, un tableau qui s'intitule Hommage à Berlioz. Enfin, c'est le sous-titre. J'ai plus le vrai titre en tête. Le sous-titre, c'est Hommage à Berlioz. Et c'est vraiment, hormis le songe qui avait été une des œuvres séminales, mais dans un style qu'il a tout de suite abandonné, on arrive à une peinture beaucoup plus lyrique, beaucoup plus ronde, avec une couleur un peu grasse, qui devient un peu brouillonne, finalement il va essayer de mettre en scène la musicalité de tous les compositeurs qu'il révère, Wagner, Berlioz, et tous les Schumann et tous les grands compositeurs de cette époque-là, mais du coup sa peinture devient trop lyrique, trop indéfinie, alors qu'il est excellent dans la définition. J'ai eu beaucoup de mal avec la dernière salle que j'ai trouvée bien trop brouillonne et éparpillée.
Et pour vous, Corinne Rondeau, cette dernière salle alors
c'est les époque où finalement il n'a plus besoin de peindre pour vivre, donc il n'a plus besoin de faire de fleurs. Donc il a décidé de prendre la peinture, celle qu'il aimait, de se faire que plaisir. Il y a une citation d'ailleurs dans le mot plaisir, et citée par lui-même, Fantin Latour. Alors ça c'est très étonnant, et en même temps on peut comprendre, je dirais, la manière dont peut-être un artiste recherche la manière d'être en rupture entre un plaisir de sa propre peinture, celle qu'il voudrait faire, c'est-à-dire une sorte de pratique privée, on pourrait dire, avec mes goûts, etc. Puisque dans cette salle où vous parlez des préludes de Lohengrin ou de l'hommage à Berlioz, on a aussi ce tableau autour du piano. On a des compositeurs, des critiques, et qui reprend en fait les mêmes postures ou le même cadrage ou le même silence que dans l'hommage à Delacroix ou au coin de la table précédemment. Ce qui est très étonnant, c'est que je crois qu'ils ont voulu ouvrir le placard magique. Vous savez qu'il y a eu un don qui a été fait par son épouse au musée de Grenoble sur les centaines et centaines de photographies pornographiques que détenait Fantin Latour, qu'il achetait chez les plus grands et vendeurs de photographies olé olé de son temps. Hein. Et donc on a ouvert cette partie-là pour dire il regardait, la photographie est devenue aussi la manière de poser, puisque les modèles sont de plus en plus difficiles. Donc on nous ouvre un peu la boîte à Pandore pour nous dire voilà d'où ça vient. Je ne suis pas sûre que le fait d'avoir des supports photographiques amène ce type de peinture. Je crois qu'au contraire, le cabinet un peu de curiosité de photographie érotique, peut-être nous délivre une certaine forme, je dirais, d'intimité de Fantin Lacroix. Et pour le coup, j'ai envie de dire, vous savez, le plaisir, s'il est intime, gardez-le chez vous. Hein. On est heureux qu'en cachant ses propres plaisirs. Et je crois que, d'une certaine manière, c'est bien de nous montrer le parcours, c'est bien aussi de nous montrer le songe de 1843, car la facture et l'envolée lyrique est déjà chez Fantin Latour, et on a l'impression qu'il n'a pas pu aller, et heureusement finalement qu'il a dû avoir des problèmes économiques pour nous donner ce que nous aimons, c'est-à-dire encore ce qu'ils étaient capables de vendre à son époque. C'est-à-dire que, grosso modo, le regard que nous avons aujourd'hui sur est le même que ceux des Anglais, du goût britannique, beaucoup, il était vendu en Angleterre, beaucoup pour Ruth Edwards, qui lui achetait par dizaines et dizaines des tableaux. Alors, moi, effectivement, je crois qu'en fait, il a joué l'ambiguïté aussi, et l'ambivalence de la touche. La touche sérieuse, ascétique, austère, voilà, impeccable, avec tout ce que vous avez dit sur les touches, ce rapport, vraiment, cette frugalité de la touche des gris, moi, m'a saisi vraiment. Puis cette manière où, un peu à la Delacroix, il adore Delacroix quand même, que je déteste, moi, par ailleurs. Mais justement, si je n'aime pas la dernière partie, c'est parce que vous parliez de gras, la touche trop grasse, il y a quelque chose de trop vibrant dans cette peinture, indépendamment du sujet, qui sont de nouveaux sujets, allégoriques, symboliques, qui reprennent la grande modernité lyrique et musicale et opératique, donc qui s'inscrit dans cette modernité-là, et cette modernité fait plutôt penser à un Gustave Moreau. C'est-à-dire comment on passe effectivement de capucines qui sont, voilà, ou de bouquets de roses, ou alors à des iris, et puis bon, à un couteau, un coupe-papier, à ça. Et en même temps, on se dit, bah, y a une partie de sa vie où il n'a pas pu le faire. Mais je crois que fondamentalement, il a pu faire ça parce que c'était son plaisir, mais je me réjouis tout de même qu'il ait eu des problèmes d'argent.
Pour avoir voilà. Toutes ces bouquets.
Mais ça n'apporte pas grand-chose, je pense. Là. L'ouverture de la boîte à Pandore, pour moi personnellement, ne... ou alors on peut être un bon, on peut être divisé, voilà. Bon, soyons
schizophrènes. Ambivalent.
Ouais. L'ouverture de la boîte à Pandore, elle est intéressante dans la mesure où elle montre aussi, elle permet de voir quand même comment est-ce qu'il a travaillé par collage pour composer certaines toiles et dans ses revues Olé Olé, dans lesquelles il est allé chercher des modèles qui se retrouvent sur des tableaux également. Il y a quand même une chose qu'il faut souligner parce que parfois on oublie le contexte et ça c'est un peu dur pour Fantin Latour, c'est qu'il est parfaitement contemporain de Cézanne et de Manet. Il est né 2 ans avant trois ans avant Cézanne et il est mort 2 ans avant lui. Et dans les années 1890, quand il arrive à cette peinture plus compliquée, lyrique, dont on parlait, c'est les dernières années de Cézanne qui sont absolument magistrales et qui vont être préfiguratrices du cubisme. Il est, encore une fois, parfaitement contemporain de ça. La même chose, ce qui, encore une fois, n'enlève rien au caractère que je trouve admirable de ses portraits, mais à la même époque, Manet, en termes de portraits, va s'engager sur des expériences et des voies beaucoup plus aventureuse que ne va jamais tenter Fantin Latour.
Oui, il reste un classique. En tout cas, il n'est pas dans cette recherche formelle-là. Il a sa propre recherche, même parce qu'il a été, comme il a été empêché, comme l'a dit Corinne Rondeau, il est peut-être revenu.
Il avait des besoins. Mais en tout cas, il admirait Manet. Il admirait Manet. Absolument.
Ça n'empêche pas d'avoir un œil.
Oui, oui, mais bien sûr, mais je crois qu'il a un œil.
Il a un œil, forcément.
Ça, il l'a. Donc, on la recommande, cette exposition, quand même, parce que Fantin Latour, c'est quand même pas... Mais c'est vrai que sur les fleurs, je suis comme vous, Corinne, quand même...
Vous avez senti des odeurs, non?
Absolument.
On est d'accord.
Ouais, plein
et là, c'est ça le problème. C'est que quand la peinture arrive à ce degré-là, c'est qu'il faut se poser la question de la peinture, quand même.
C'est une phrase sur laquelle nous allons méditer assez longuement.
C'est pas clair ce que j'ai dit,
non,
tant pis.
Mais
c'est un très bon technicien et ce n'est pas un inventeur, comme vient de dire.
Et Frédéric Bonnet.
Oui, mais ça veut dire que... Oui, oui, c'est un garçon que j'aime beaucoup.
Oui, on le sait par ailleurs. Voilà, vous avez traduit vous-même le rondeau vers le français.
Ouais.
Le dernier mot, c'est...
Mais il savait très bien qu'il jouait du naturalisme, c'est-à-dire qu'il voulait tromper. Il voulait faire croire... qu'il n'y avait aucun effort artistique, aucun effet artistique. Il se jouait de ça pour dire que ça faisait plaisir aux ignorants, disait-il, et les artistes croient que c'est par ignorance de ma part. Il n'était pas si nul que ça dans sa technique, Non mais c'est cette ambivalence en permanence qu'on n'arrive pas à défaire chez Fantin Latour. Et c'est ça qui le rend sympathique aussi.
Absolument.
Fantin Latour, à fleur de peau. L'exposition est visible au Musée du Luxembourg, Sénat, à Paris, jusqu'au 12 février. Puis donc un catalogue, vous avez cité le texte de Laurent Salomé. Oui,
les repros sont très écrasés au niveau lumineux, c'est très très écrasé. Mais le texte de Laurent Salomé est une bombe.
Bon, voilà, rien
non,
que
les
pour
autres
ça.
Aussi, Dallon, l'une des conservatrices aussi, qui je crois qui participe au...
Bah, qui est l'une des commissaires.
Oui, le commissaire, voilà.
Absolument.
Laure Dallon, c'est très bien.
Bon, ben voilà, les catalogues sont aussi faits, heureusement, pour en lire des textes. Catalogue édité par la RMN et le Musée du Luxembourg.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Louis Forer à la Fondation Henri Cartier-Bresson, mais aussi de Kerry James Marshall à Chicago, de Yvan Salomon à la Galerie Xippas à Paris. Pour l'heure, ouvrons les rideaux du petit salon pour y retrouver Lucille Como. Bonsoir, chère Lucine Verrou, nous amène le petit salon ce soir.
Alors, vers les premières assises du CIPAC, la Fédération des professionnels de l'art contemporain, lundi dernier ont eu lieu les premières assises du CIPAC. J'ai visité à cette occasion leur site et remarqué que parmi les réflexions proposées, il y en avait une intitulée « Acquérir, numériser, conserver et restaurer les œuvres d'art audiovisuelles ». Je me suis souvent posé la question du devenir de la vidéo d'art en dehors des écrans, tablettes et autres installations technologiques qui leur servent de support dans les expositions. Je me souviens l'an dernier avoir visité à Pantin un lieu dédié à la jeune création et une des organisatrices m'expliquait la grande difficulté des artistes vidéastes à vendre leurs œuvres. Disons encore plus grande difficulté car vendre tout court pour un jeune artiste c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs parmi les artistes exposés dans cette galerie, celui qui avait été le plus vendu à cette occasion-là était un peintre sur verre, pas très représentatif des choix des jeunes artistes aujourd'hui qui choisissent peu le médium de la peinture. Alors comment vend-on une œuvre vidéo ? Les institutions en achètent, on en voit dans les musées, par exemple viennent de se clore deux expositions largement dédiées à la vidéo au Palais de Tokyo à Paris, celle de Clément Cogitor et dans un tout autre genre celle de Mika Rothenberg, mais les collectionneurs privés, eux, boudent le médium. Alors pourquoi ? Dans les foires d'art contemporain, les vidéos sont souvent mal installées. Peu de collectionneurs prennent le temps de les regarder en entier. Il faut remarquer quand même que de plus en plus de lieux dédient désormais un espace spécifique à l'art vidéo. C'est le cas par exemple de la foire d'Art Basel à Miami. Par ailleurs, une œuvre vidéo est souvent très chère. Elle demande beaucoup de temps de création et d'élaboration. Mika Rothenberg, par exemple, montrait au Palais de Tokyo des vidéos représentant un élevage d'huîtres à perles en Chine, pour lesquelles elle a voyagé et passé beaucoup de temps là-bas. Ensuite, parce que la vidéo est facilement reproductible, facilement diffusable, et cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle on posséderait une œuvre unique chez soi. Et puis aussi parce que son exposition dans un cercle privé est une vraie question. Est-ce qu'on achète du matériel spécifique ? Est-ce qu'on allume et on éteint son écran en rentrant et en sortant de chez soi. Enfin, dernier problème, celui de la conservation des vidéos, qui sont des supports fragiles. On me racontait cette histoire d'un couple de collectionneurs parisiens qui embauche, je parle comme Corinne Rondeau, j'ai le même accent, qui embauche tous les ans des étudiants pour faire ce travail de renouvellement et de restauration des fichiers. Ils leur demandent d'appeler les galeries, de demander des nouveaux DVD, des nouveaux fichiers, parce que les leurs ne fonctionnent plus. Pas simple donc pour un artiste vidéaste, alors même que la vidéo est partout dans l'art contemporain. Alors certains vont voir du côté du cinéma expérimental ou même du cinéma tout court. C'est le cas de Clément Cogitor par exemple, par stratégie peut-être.
Peut-être. Alors quand même déjà dire que la peinture a quand même droit de cité à nouveau très largement parmi les jeunes artistes, Frédéric Bonnet, confirmé.
Oui, peut-être juste même trop, puisque maintenant c'est redevenu tellement à la mode qu'on va passer à une quantité de croûte invraisemblable.
Voilà, on aura l'occasion d'en reparler pour un prochain petit salon, l'éternel retour.
De la peinture,
de la croûte aussi.
Mais ça peut être positif.
Il y a de la très bonne peinture, ceci.
Est généralement mauvaise aujourd'hui. Alors, savoir.
Autre phrase à noter, la très bonne peinture est généralement mauvaise aujourd'hui.
Je vais arrêter avec les médicaments.
Les aphorismes de Corinne Rondeau, une édition spéciale de la dispute édition. mais cette question, alors, il y en a plusieurs en une, mais si on commence par celle de la vidéo, la difficulté ou les questions posées par la collection et l'achat donc de vidéos, Frédéric Bonnet, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Non, moi je suis pas vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le sujet. Sur le volet commercial, commercialement, ça marche la vidéo. Au début des années 2000, une période où la vidéo était très très à la mode. Donc, sur tous les stands de foire, de toutes les foires, il y avait effectivement des moniteurs vidéo. Là. Sauf que, effectivement, la vidéo est un médium qui se prête peu à être montré sur un stand de foire, parce que la vidéo, c'est un médium qui impose son temps. Et c'est le seul médium dans l'art qui impose une temporalité. Elle dure 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Alors, aller montrer un film de David Clairbout de 35 minutes, comme le fait courageusement Micheline Schweisser régulièrement sur ses stands. C'est compliqué, mais elle le fait quand même. Et il y a quand même des galeristes qui le font, mais effectivement, la part de vidéos montrées sur le marché, dans les salons, a considérablement réduit. Ce qui ne veut pas dire que la vidéo ne se vend pas. La vidéo se vend aussi bien que les autres médias. Et il y a un marché de la vidéo. Il y a des collectionneurs spécialisés dans la vidéo. Évidemment, à Paris, Jean Conrad et Isabelle Lemaître sont les plus connus. Ils n'achètent que de la vidéo. Donc voilà, il y a un marché. Il y a des collectionneurs. Il y a des ventes. Il y a même à Barcelone une foire spécialisée dans la vidéo et elle existe depuis longtemps. C'est la foire Loupe qui a lieu tous les ans au début du printemps. Et on n'y montre que de la vidéo. Elle attire un public, elle attire des collectionneurs. Il y a des transactions qui s'y font. Donc voilà, ça marche. Par contre, concernant la vidéo, me semble-t-il, le problème essentiel, c'est effectivement celui de la conservation et de la monstration. Parce que le plus compliqué à accrocher dans une exposition, c'est la vidéo. Vous pouvez être sûr que 100% des fois, vous avez des problèmes. Vous n'avez jamais le bon lecteur, vous n'avez jamais le bon projecteur, vous n'avez jamais le bon truc de réglage, parce que les formats changent tout le temps, les normes changent tout le temps, bon, il manque toujours quelque chose, ça va jamais. Donc ça, c'est très compliqué. Et effectivement, pour qui se porte acquéreur, que ce soit privé ou que ce soit institutionnel, avec le temps, va se poser des problèmes. Qu'est-ce que vous faites de vos cassettes VHS, de la vidéo de Bruce Nauman que vous avez acheté dans les années 80, hein? Et même si elle était en Betamax, en fait, avant la VHS, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Donc, on est passé au DVD, mais même le DVD, ça va finir par disparaître. Bien donc, sûr, il va falloir passer à d'autres formats. Donc, c'est quelque chose sans fin. Et effectivement, on me racontait pas plus tard que la semaine dernière, qu'une institution sud-américaine avait acheté une installation vidéo de Pierre Huyghe au début des années 2000 qu'ils n'avaient jamais sorti de la caisse. Quand ils ont voulu la montrer il n'y a pas si longtemps que ça, plus rien marchait parce que il y avait le mode d'emploi, ça n'allait pas, je ne sais pas quoi, et puis surtout le matériel était devenu complètement obsolète. Il y a effectivement ça, un vrai problème qui est insoluble et qui, je pense, nécessite d'investir beaucoup dans une maintenance de la collection vidéo.
C'est vrai qu'il y a ce temps à part de la vidéo, c'est une question qui revient souvent dans nos disputes art plastique, c'est le temps passé pour regarder les vidéos en entier dans les expositions, ce qui pose aussi ces questions-là de la façon dont elles peuvent être montrées ou difficilement dans les foires. Il y a un lien particulier du spectateur avec la vidéo comme support artistique, Corinne Rondeau?
Oui, il y a un lien particulier, mais elle est tout à fait dichotomique entre le rapport à la peinture, par exemple une image fixe ou la photographie, à cause de ce qu'a évoqué Frédéric, à savoir la temporalité. Et puis, quand on a un rapport à l'image mobile, ce n'est pas que l'image qui compte, en fait. C'est dans quelle disposition je la vois. Est-ce que la salle est obscure, parfaitement obscure? Je me rappelle à Bâle, la grande fondation privée où il y avait Steve McQueen.
Bélier.
Non.
J'étais à la Schaulager, pardon.
Schaulager, des salles, mais prodigieuses, avec des horaires de programmation.
Ouais.
À telle heure, ça commence et vous ne rentrez pas quand ça a commencé. Donc on avait mis, Steve McQueen avait imposé un dispositif cinématographique à horaires. Ce sont les questions qui peuvent se poser aujourd'hui, parce que la vidéo, on voit bien que les gens restent davantage, parce qu'il y a du son, que le son avec une image mobile, ça marche mieux, parce qu'on reste très peu de temps. On reste très peu de temps, finalement, face aux œuvres. Et la question de la vidéo, c'est justement aussi un problème de diffusion, parce que c'est aussi la question de la diffusion. Quand je ne l'achète pas, c'est aussi bien que, pour une part, Frédéric dit « ça se vend ». Mais pour une part, ça se vend aussi pas. Et c'est bien aussi que ça puisse être des œuvres, enfin, qu'il y ait des œuvres qui ne puissent pas se vendre. Enfin, que l'art ne soit pas totalement soumis au marché, je trouve ça vachement bien. Et que par ailleurs, que la vidéo puisse être un espace dans lequel on reste pour voir les choses, c'est peut-être aussi de réapprendre à voir les choses, indépendamment de la vidéo, dans la question de l'accrochage. Qu'est-ce que je vois? Puisque par exemple, chez Steve McQueen, il n'y a pas que de la vidéo. Donc, à un moment donné, ou le film, quoi, le vrai film avec le dispositif où on va mettre des écrans suspendus, où on est plutôt dans l'installation. Donc, la vidéo ouvre, je dirais, beaucoup plus de potentialités que effectivement une image fixe, même si même une image fixe est aussi difficile à accrocher. Mais c'est des questions de temporalité et de Oui, c'est très différent. Puis c'est une variation aussi du spectateur. Quelle temporalité il choisit, qu'est-ce qu'il y a. Puis la question de la conservation, et je dois dire là maintenant, c'est ce qui nous arrive est monstrueux. La question de la Cinémathèque française a déjà posé la question lors de Colotte il y a 2 ans, je crois, où l'INHA a mis en œuvre un certain nombre de réflexions et de colloques.
L'Institut national de l'histoire de l'art.
Sur justement la disparition des supports numériques où il y a à peu près 20 ans de la mémoire qui commence à s'effacer. Bah écoutez, vive la pellicule, hein.
Ouais, et les fichiers numériques, c'est ça qu'on va vendre, les fichiers. Alors, il y a quand même, dans l'acte d'achat, il y a quand même aussi, et ce qui pose problème et pour tous les œuvres reproductibles, c'est-à-dire, quelle est la physicalité de ce qu'on achète? Et si on est effectivement acheté un fichier qu'on vous envoie par mail, dire, voilà, c'est comme ça que j'ai reçu mon œuvre, ça change quand même, mais aussi la donne, Corinne.
Oui. J'en parlais avec une artiste, là, à propos. C'est quand même étrange d'acquérir une vidéo. C'est pas le même rapport au quotidien. Un tableau, une photo. Vous vivez avec eux, vous pouvez les oublier. La vidéo, c'est se rappeler que vous l'avez pour la mettre. Et peut éventuellement, quand on est chez un grand collectionneur, il y a des dispositifs qui sont en œuvre tout le temps, qui tournent et tout. Parce que le grand collectionneur, c'est celui qui se vit dans un musée aussi. Sa maison devient une espèce de cabinet... Voilà, proche du musée parfois. Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport à l'objet n'est pas le même parce qu'il y a une dématérialisation déjà faite par l'image.
Oui, Frédéric Bonnet.
En même temps, l'art conceptuel nous a montré depuis longtemps qu'on pouvait acquérir une œuvre qui était dénuée de toute physicalité.
Oui, mais alors c'est très différent de se dire j'ai acheté rien, du vide, que d'acheter un film que je dois voir de temps en temps. Enfin, pour moi, j'entends ce que vous dites, hein, Frédéric, sur la question de l'art conceptuel. Ça m'intéresse d'avoir cette idée pour y penser de temps en temps. Et même si elle n'est rien et qu'elle n'est qu'une proposition, et qu'éventuellement un jour je la réaliserai, plutôt que cette chose que je pourrais avoir, et c'est bizarre parce que je pourrais avoir un film et je ne la regarderai pas comme un DVD d'un film que j'ai vu au cinéma. J'ai pas le même rapport à la vidéo qui fait à quel moment cette chose-là doit sortir et qui n'est pas le même rapport, qui n'est pas le même plaisir du tout.
Non, ça c'est vrai, ça n'est pas le même type d'image, parce que ça n'est pas produit pour le même type de public et pour le même type de lieu. Ça n'est pas produit seulement pour un écran, c'est produit pour un dispositif spécifique de monstration. Donc effectivement, on a forcément un rapport qui est complètement différent à l'image.
Et le rapport du propriétaire est différent aussi.
Absolument.
Bien, eh bien voilà, un petit tour sur cette question de la vidéo dans l'art aujourd'hui, qui nous permet de refermer les rideaux du petit salon. Car c'est l'heure, à présent, de découvrir les recommandations des critiques présents avec nous ce soir. Frédéric Bonnet, tant que le jet lag vous frappe encore, vous pouvez nous partager avec nous quelques-unes de vos impressions de voyage.
Mais oui, j'ai vu une formidable exposition de Kerry James Marshall au Musée d'Art Contemporain de Chicago. Et je dois dire que c'est une exposition coup de poing. C'est d'abord le point levé et puis après c'est le poing dans ta face. Parce que Kerry James Marshall, il est né en 1955 en Alabama, il est noir. Il a déménagé en 1963, donc enfant à Los Angeles. Il a vu les émeutes de Watts. Cette question noire, elle est évidemment restée toujours présente. Et il en a fait l'essence de son travail. Ce qui frappe d'entrée quand on rentre dans cette exposition, qui est une rétrospective, hein, qui montre 35 ans de travail, c'est que tout de suite c'est la question de l'invisible et de la disparition, parce que l'homme noir n'est pas visible. Et il y a un tableau d'emblée qui est prodigieux, qui s'appelle tout simplement Invisible Man, 1986, où c'est un fond noir, c'est un homme noir qui se dessine à peine avec une silhouette et puis les dents blanches et le blanc des yeux. Point final. Et ça déjà, ça vous met un point dans la figure. Et tout le reste est à l'avenant sur un questionnement du noir comme problématique sociale et comme problématique esthétique. Et évidemment, il s'intéresse au regard porté sur les Afro-Américains au cours de l'histoire américaine, sur le défi esthétique et pas seulement politique qui est de raconter leur histoire et leur vie quotidienne et l'impact de montrer cette histoire-là dans le cours de la grande histoire américaine. Et donc, il y a un déroulé qui se fait dans cette exposition, de scènes de la vie intime et quotidienne de la middle class noire américaine, avec une peinture assez rugueuse, très colorée, là aussi un drôle de rapport à la profondeur. C'est vraiment des tableaux qui interpellent. Il y a toute une série absolument remarquable sur les programmes de relogement qui avaient été lancés par Roosevelt après la guerre pour justement reloger les populations pauvres, middle class, avec des lotissements essentiellement conçus pour les Noirs, où donc on voit des familles moitié heureuses, moitié pas heureuses. Il y a toujours quelque chose d'un peu gênant, il y a toujours quelque chose d'un peu rugueux dans cette peinture qui vous retient. Il y a aussi la question du modernisme qui est posée, le modernisme en tant que mouvement blanc. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui quand on regarde ça? Il y a un tableau absolument prodigieux, c'est la première fois que j'ai vu un Adam et Ève noir en peinture, dans un décor complètement élégiaque et absolument magnifique. Et on a ces deux corps graciles qui s'enfuient, qui sont en train de quitter le tableau, qui sont en train de quitter ce monde complètement élégiaque. Et Kerry James Marshall est aussi un remarquable portraitiste. Et il y a notamment une série absolument extraordinaire sur la question de l'artiste. À quoi ressemble un artiste dans son atelier? Évidemment, un artiste noir, un artiste au travail et un artiste qui se confronte à la question de la figuration et à la question de l'abstraction, puisque dans ces tableaux-là, il y a toujours une ambivalence entre les deux. Donc voilà, c'est une exposition hautement recommandable. Alors elle termine très bientôt à Chicago, mais elle va à New York, au Met Brewer, j'avais noté la date, le 25 octobre jusqu'au 29 janvier, et ensuite elle ira au mois de mars à Los Angeles, au LACMA. Ça donne plein d'occasions d'aller la voir.
Et ça vient quand en Europe, Kerry James Marshall?
Et là, c'est pas prévu.
Comment ça, est-ce que ça vient à Paris, en France, quelque part? Parce que vous nous donnez très envie. Moi, j'ai vu très peu de tableaux de Kerry James Marshall, mais des souvenirs... très fort. C'est pas votre cas, Corinne Rondeau?
Encore, Frédéric.
Bah oui, non, mais là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller, alors certes, à Chicago, à New York, à Los Angeles, mais on n'a pas besoin de Kerry James Marshall pour avoir envie d'y aller, mais on voudrait surtout que ça vienne plus près de nous. Alors, très près des Parisiens et des Franciliens, la galerie Xipas, Corinne Rondeau, pour y découvrir jusqu'au 15 octobre une exposition d'Yvan Salomon.
Oui, de la figuration et de l'abstraction aussi, on va dire. Alors, le titre, c'est... Je sais pas comment il faut
elle
dire.
L'apostrophe
à chose. Alors, est-ce que c'est la cause ou la chose? Ça fait toujours penser à quelque chose d'assez lacanien, en fait,
oui.
Ce titre d'exposition.
La cause, la chose.
Et puis, le jeu de mots n'étant pas du tout, je dirais, loin de Salomon, ça me paraît tout à fait recevable de dire la chose ou la cause. Mm-hmm. Ou bien, un peu à la Kierkegaard. Alors, évidemment, c'est un peintre qui connaît bien l'eau, pas pour habiter Saint-Malo, mais pour utiliser l'aquarelle. Et je dois dire que ce rapport à l'eau, qui est une manière vraiment de dépeindre, il dépeint les paysages, il ne les peint pas. Donc, il y a tout un rapport, évidemment, à la photographie qu'il a eue. Il commence en 91. On pourrait se dire que, finalement, il peint toujours la même chose. Des paysages qui sont sans personnages, où il n'y a pas de grand sujet, ou peut-être même pas du tout de sujet, dans lesquels il y a aussi des formes géométriques, des carrés, des rectangles, des cercles, de couleurs aussi. Et ces paysages, finalement, ils brassent aussi beaucoup de silence. On parlait tout à l'heure de silence avec Fantin Latour. Il y a quelque chose de ce silence et d'un désert. Je trouve le rapport, justement, à cette eau qui vient laver la vie humaine, cette manière dont il va poser de l'eau dans la peinture, dans l'aquarelle, il y a des taches comme ça. On a l'impression qu'il veut faire sortir le paysage dans la surface même du papier. Ça, c'est assez beau, je trouve, ces zones d'eau sur le papier qui créent vraiment le mouvement de la peinture. Alors, on se dit, bon, bah, depuis 91, il peint une aquarelle, il écrit une page, une aquarelle pour une page, et puis de 91, puis 2016. Ben oui, je trouve que quand même, ces artistes qui tiennent, Toroni notamment, toujours des traits, toujours les mêmes coups de pinceau. C'est assez admirable de rester dans une temporalité qui est celle de leur propre pratique et de leur propre réflexion sur le médium. Alors, sur une multiplicité de supports, par exemple avec Toroni, on avait pu le voir, et d'ailleurs, c'était Frédéric qui m'avait donné envie d'aller en disant, mais non, pas encore Toroni. Et il y a cette idée chez ces artistes qui sont étincelants par leur leur permanence dans leur travail. Et cette manière dont la photo devient de l'aquarelle et comment il y a de l'aquarelle élargie à l'écriture aussi, puisque en 2010, le Mamco a édité ses cahiers, ses pages, donc c'est une page pour une aquarelle, c'est à peu près une semaine de travail, mais pas plus, enfin plus ou moins. 91-2006, ça s'appelle le point d'Ithac, on peut le trouver toujours, qui sont... pas forcément sur l'image qui est peinte, mais ce décalage, et je trouve que ce décalage se retrouve dans sa peinture entre abstraction et figuration, ne cherchez pas à être dans un réalisme, ne cherchez pas à être non plus dans une séduction, c'est beau l'aquarelle, c'est bien foutu, c'est bien fait, et en même temps, c'est ce que Baudrillard disait, c'est dur, c'est mourir à la réalité. Et bien je trouve que d'une certaine manière, il n'y a pas de leurre, il y a une vraie réalité d'aquarelle chez Salomon, qui est une manière de dire eh bien, je marche pas dans les rues, je regarde pas les ports et je peins pas forcément les paysages que j'ai vus, même si je m'en nourris. C'est une manière de chercher à marcher dans le désert de l'aquarelle et au bout du désert, ben il y a de l'eau quoi. Il est toujours à la recherche de ce désert et je trouve que c'est assez signifiant ce rapport à l'aquarelle, quoi, finalement, qui est un truc ultra désuet, suranné à souhait. Et d'un coup, voilà, il y a cette espèce de tension colorique très chromatique, très fort, avec ces moments où ça tombe, la géométrie arrive pour faire tomber quelque chose de ce paysage qui n'a rien à voir avec du naturalisme, rien à voir non plus avec du réalisme.
La cause ou la chose, c'est l'exposition d'Yvan Salomon à la galerie Xipas et c'est jusqu'au 15 octobre.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques pour aller dans une maison que nous aimons beaucoup, la Fondation Henri Cartier-Bresson, qui propose en ce moment une exposition consacrée à Louis Forer. C'est Agnès Cyr, la directrice de la Fondation, qui est également la commissaire de cette exposition. Philadelphie en 1916, mort à New York en 2001. Louis Forer s'était installé à New York en 1947. Il a travaillé beaucoup à la commande pour des magazines comme Harper's Bazaar, Vogue, Life ou Glamour, mais qui lui servent, il ne s'en est jamais caché, de gagne-pain pour pouvoir continuer à faire le travail qui l'intéressait, c'est-à-dire arpenter les rues de New York essentiellement et travailler une œuvre personnelle. Là aussi, il est signalé qu'on n'avait pas vu d'exposition personnelle consacrée à Louis Forer en France depuis près de 25 ans. Moi, j'avoue que je ne connaissais carrément pas. C'est la Fondation Henri Cartier-Bresson qui pallie ce manque en une centaine de tirages et documents. C'est Frédéric Bonnet qui entre le premier dans cette fondation Impasse Le Bouy dans le 14e arrondissement. Nous vous suivons, Frédéric.
Et c'est toujours un plaisir d'aller dans cette jolie fondation Cartier-Bresson, parce que l'endroit est magnifique et puis parce qu'on y voit quand même souvent des jolies expositions. Et là, effectivement, il y a ce Louis Forer que moi non plus je connaissais pas. On est tout de suite happé dans une photographie qui a une singularité dans la mesure où, alors effectivement, on n'y montre absolument pas son travail de production pour les revues de mode. On n'y montre que sa production faite dans la rue, dans les rues de Philadelphie, puis dans les rues de New York, où il s'est installé, je crois, en 1947. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est absolument pas de la photographie programmée et de la photographie mise en scène, mais ça n'est pas non plus un documentariste, ce Louis Forer. C'est un entre-deux, et moi je dirais que c'est plutôt une sorte de conteur d'une réalité du quotidien. pas du quotidien non plus, mais d'un morceau de quotidien, d'une réalité que lui va percevoir, parce que c'est toujours des images très très focalisées. Il y a un sens du détail, il y a un œil du détail qui font que sur chaque tirage, on est confronté à des histoires minimes. Et c'est là, véritablement, je trouve, tout l'intérêt de ce travail. C'est dans cet aspect très modeste, entre guillemets, du sujet et de ce qui est donné à voir sur l'image. Peut-être que de cet aspect minime découle la mélancolie de ce travail, qui est quand même assez présente et assez assez intrinsèque. On a l'impression que c'est qu'on regarde le travail d'un marcheur qui est un peu en prend par le doute quant à la nature du monde comme il va et qui s'interroge vraiment sur le caractère trépidant de la ville qui l'occupe beaucoup en se demandant s'il n'est pas complètement factice ce caractère trépidant et surtout sur ce qu'il produit parce que Louis Forer avec une élégance de traitement aussi bien des gens que des choses va vraiment se focaliser sur des petites histoires, les choses de chacun, et développe une empathie avec ses sujets qui le fait rompre quand même avec celui qu'il a affirmé comme ayant été son maître entre guillemets, qui était Walker Evans. Walker Evans a quand même une froideur face au sujet, et si Louis Forer a toujours revendiqué un héritage de Walker Evans, il s'en différencie justement par cette empathie qui est mise en avant dans les images. Et ce que je retiens aussi de ce travail, c'est de sont des magistraux jeux de reflets, de vitres, de miroirs, de distorsions, de doubles, qui font que même avec, encore une fois, un sujet qui souvent n'est pas grand-chose, l'image devient parfois quelque chose d'assez complexe, qui vraiment attire l'œil dans des profondeurs de champ assez insoupçonnées.
Corinne Rondeau, sur Louis Forer.
Oui, c'est un photographe très étrange, dont certaines informations, j'apprécie la description qu'a fait Frédéric sur Quotidien. Enfin, il est assez insaisissable, je trouve. D'abord, il est un peu avant-gardiste, avant cette photographie, la street photographie américaine des années 70. Il est effectivement ni un Robert Frank qui côtoie, qui s'est arraché la pose dans le réalisme absolu de l'Amérique. Ces Américains, il en fait vraiment un mythe. Il n'est pas non plus le Walker Evans, et on est bien content qu'il n'en fasse pas un double, parce qu'on en a un peu ras-le-bol. Et ce qui est très étrange, vous parliez d'empathie, Frédéric, et c'est vrai que... Alors, il est à la fois photographe de mode pour se nourrir, vous l'avez dit Arnaud, et en même temps il ne peut pas s'empêcher de partir dans la rue pour photographier quelque chose qu'il a connu, c'est-à-dire la pauvreté. Et c'est incroyable à quel point ces photographies sont toujours dans une division. Il y a à la fois la main très nette d'un aveugle qui tient une canne où il y a marqué « je suis aveugle », et vous avez un flou qui est le flou du passage des jupes, des manteaux, qui est la disjonction entre l'arrêt de cet homme à la rue, dont on voit pas parce qu'il coupe les têtes. Enfin, ça, il y a à la fois la pauvreté, mais il n'y a pas non plus le caractère, je dirais, ultra-empathique ou pathétique de la pauvreté. Et toutes les photographies ont cette double structure. Frédéric parlait notamment de jeux de reflets. En fait, ce sont des ombres de reflets. Ça, c'est très intéressant. Et on a l'impression que dans toutes ces photos, ces divisions de photographie, où il y a des sujets qui reviennent, le gros avec son cigare, des gens qui sont seuls, mais qui se posent la question de justement ce monde autour d'eux. C'est à la fois le Market Street à Philadelphie, à la fois il va à Times Square, là où c'est la lumière, le spectacle, pour en fait arrêter les gens dans leur propre suspension. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours dans ses photographies un effet feedback vers lui. C'est pour ça que moi, j'ai eu un problème avec ses photos. Je les trouve belles. Il y a un travail sur le grain. C'est un très bon tireur d'image, travail de contraste. Mais ça vient pas jusqu'à moi. Et ce qui vient pas jusqu'à moi, je crois que c'est le filtre qui est aussi son point de vue. Et ce point de vue, c'est justement cette structure de l'image qui est toujours en double. Un autre moi, et ça, je vais vers l'autre. D'où l'empathie dont pouvait parler Frédéric. Et en même temps, un autre que moi. Ce n'est pas moi, mais je l'ai été. Et en même temps, Je ne le suis plus. Et qu'est-ce que c'est que de... Moi, j'étais... Alors, je trouve cette explication peut-être un peu fumeuse, même de ma part. Mais je trouve que, à un moment donné, on se pose la question de... Pourquoi ça vient pas? Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est sur le crépuscule quand même. Il photographie à la tombée de la nuit. Il va faire un film entre 62 et 68 après la mort des Kennedy. Vous avez des images qui arrivent. C'est un film qui monte où il y a le monde des hippies qui arrive. Il y a des incrustations dans la ville qu'il saisit. Et il saisit des mots comme This area is over, no escape. On a l'impression qu'il a fermé le monde avant Carpenter, quoi.
Ouais, mais justement, il y a quelque chose, moi, on vous parlait de filtre, j'ai l'impression de voir. C'est comme si je voyais des photogrammes de films de cinéma, alors, bien
oui,
souvent, parce que ça ralentit, effectivement. Je trouve que les photos ralentissent le côté trépidant des rues américaines et en même temps fictionnent. Mais je pense qu'il fictionne ces gens qui le regardent parce qu'il a été eux, effectivement. Mais que du coup, il y a ce filtre-là, moi, je l'ai ressenti pas comme une mise à distance, mais comme une. Comme une forme de, non pas de transcendance, mais en tout cas d'élever d'une certaine façon, ben, des gens qui sont des anonymes, qu'ils croisent dans la rue, mais qu'il met comme sur une forme d'héroïsation même dans la simplicité.
Non, mais Station lui dit qu'il faisait, c'est un lyrique de l'appareil photo. Et, j'entends ce que vous dites, Arnaud, parce que par ailleurs, il est un admirateur de Chaplin. Il regarde le cinéma néo-réaliste italien, Victor de Sica, le voleur de bicyclette,
ah oui.
Rome, ville ouverte de Rossellini, et il adore l'aspect naturaliste de Jules et Jim. Donc,
d'accord.
La photographie même d'affiches de Walker Evans, qui va photographier très comparable plus tard, lui, il y a des échos à une certaine production, d'un certain héritage aussi, à la fois de la photographie et du cinéma.
Frédéric Bonnet?
Oui, moi je crois cette question du filtre, elle est très intéressante parce que évidemment c'est une problématique qui est récurrente dans les images. Il y a, pour prendre qu'un exemple, mais cette magnifique photo qui est prise à l'arrière d'un bus où il y a les deux vitres du bus, mais pas, il est pas collé, l'objectif est pas collé aux vitres du bus, il est vraiment reculé par rapport aux vitres, comme si effectivement il fallait quelque chose pour voir la réalité, pour véritablement la regarder. De même que on voit très clairement que c'est quelqu'un qui a une fascination pour les gens qui habitent la rue véritablement, et habiter la rue, c'est être attiré par la rue. Il y a quelques paroles de Louis Forer dans le catalogue. Il a cette jolie phrase où il parle de la lumière hypnotique du crépuscule qui me conduisait en Times Square. Et là, effectivement, quand vous disiez, Corinne, que c'est un travail crépusculaire, je pense que c'est parfaitement exact. Et on le voit très bien, l'importance du noir. Elle est considérable dans ce travail et dans cette exposition. Pour en revenir à cette question du filtre, moi j'ai eu l'impression que les lumières de la ville, entre guillemets, c'était une manière de mettre en avant, en tout cas de triturer, de questionner à la fois la capacité d'attraction, pas d'abstraction, la capacité d'attraction et la capacité de répulsion de la ville et de ce que la ville peut produire comme mouvement, voire comme déchet. Et alors c'est peut-être qu'une pure conjecture de ma part, mais en tout cas, il y a vraiment un double mouvement qui se joue dans beaucoup beaucoup de ces images.
Ah, c'est la structure est très claire. L'idée même d'une une image double dans l'image, elle est constante. Et ça, c'est effectivement cette manière de ramener peut-être du hors-champ dans le champ, cette manière de questionner, effectivement, comme le dit très bien Frédéric, ce rapport à celui qui habite et celui qui fait que passer. Qu'est-ce que j'y vois, finalement? À quel moment cette photo est un écran aussi où se joue pour moi la décision de qu'est-ce qui se joue dans un temps que j'habite, parce que les photos de Forer et son film Tam Capsule, c'est vraiment ça. C'est quel temps je questionne au point de vue qui est le mien. Donc, il est ultra contemporain, je trouve. En même temps, je trouve que sa photographie ne joue pas comme un Walker Evans pour nous aujourd'hui, parce que on a des discours qui nous ont bien calés devant, ni comme un Robert Frank. Ce retour de cette photographie qui a été écartée, je pense que la difficulté à avoir vu Forer, c'est toute cette photographie qui a été bien cadrée, qui était d'un cadrage formidable, ultra solidifiant au niveau de sa propre culture et ce rapport à l'impersonnel. Comment les photographes étaient dans l'impersonnel? Quand Frédéric parle d'empathie et que moi je vous dis l'autre que moi, moi, l'autre, on sent qu'il y a du sujet dans ces photos. Mmh. Et je pense qu'il appartenait à une époque qui était déjà celle de Nan Goldin d'ailleurs. Le texte d'Agnès Cyr qui finit, c'est une phrase de Nan Goldin à une expo de Forer où Nan Goldin voit ses photos et elle dit on peut encore croire que la photo peut être honnête. Mmh. Et là, d'un coup, Nan Goldin, c'est vraiment... Et d'ailleurs, la photo commence avec un portrait de Viva qui a été sa compagne, actrice et modèle. Et c'est elle qui lui a fait rencontrer William Eggleston, qui vouait une grande admiration à Forer. Et on finit à une photo de 68, on fait pas de photos, mais c'est une photo de... On pousse, c'est une femme qui pousse un énorme caddie dans la rue. On dirait une photo d'aujourd'hui. Et ce type, en fait, il est avant la street photographie. Il est avant Nan Goldin et en même temps il n'est rien de tout ça. Et je pense qu'en fait il a mis du sujet à l'endroit où tout le monde faisait de l'impersonnel. Donc je me réjouis que la Fondation Cartier, même si je suis face à un écran et que ça ne vient pas jusqu'à moi, ils sont en train de me dire prends une éponge, efface. Pas Walker Evans bien sûr, mais efface l'impersonnel pour entrer dans. C'est quoi la question du sujet de la photographie?
C'est la fondation Henri Cartier-Bresson, à ne pas confondre avec une autre fondation, Cartier. C'est Louis Forer et c'est jusqu'au 18 décembre que l'on peut découvrir ce photographe, cette exposition et puis une monographie qui est apparue pour l'occasion, éditée chez Steidl. Voilà, on va conclure cette émission en revenant d'abord sur le jeu de la dispute d'hier au soir, Lucille Comeau. Que gagnait-on?
On gagnait des places pour des entrées pour l'exposition Roger Talon. Je ne me souviens plus où elle se situe.
Au Musée des Arts Décoratifs à Paris, absolument. C'est pas ça que je fallait que je vous demande. Il fallait que je vous demande la question et la réponse.
Voilà, et mieux. La question est, au milieu des années 60, Roger Talon participe à la création d'un nouveau téléviseur, le Teleavia P111. En quoi est-il nouveau? Et la réponse est, c'est un téléviseur précisément portatif.
Voilà, il avait une poignée. A gagné ce soir des places de cinéma pour un film que vous adorez, Lucille, c'est Showgirls de Paul Verhoeven. On en a parlé hier soir. Non, vous détestez ce film de mauvais goût que Corinne Rondeau aime par-dessus tout.
Car je suis de mauvais goût.
C'est une version restaurée, il est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Lucille?
La question est, dans le dernier plan du film Showgirls, de manière très subtile, on voit un panneau routier. Qu'indique-t-il?
Si vous faites des questions orientées. Bon.
Vous m'y invitiez, Claire.
Votre réponse à cette question orientée, vous nous l'envoyez, ainsi que vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Merci à vous, Corinne Rondeau, Lucille Comeau, Frédéric Bonnet, d'avoir pris part à cette dispute avec moi. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr sur la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également podcaster nos émissions. Vous pouvez également nous y écrire. Dispute possible grâce à Lucille Comeau, Daniel Fino, Virginie Le Duo, Josué Morel et Boris Pino qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Valérie Lavalard. Réalisation Daniel Fino. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie d'Olivier Lam et Hugo Cassavetti. À notre sommaire, mystère de la femme, Skeleton Tree, Nick Cave and the Bad Seeds et M de Mia. Tout ça c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.